RCF.
C'est Grand Angle, bonjour, le podcast à l'écoute du monde. Eh bien, c'est le thème de l'émission aujourd'hui en partenariat avec le quotidien La Croix. Le podcast, bien, vous connaissez, hein, vous chers auditeurs, il vous permet d'écouter, de réécouter l'émission qui vous a plu. Vous pouvez aussi utiliser le système pour une balado-diffusion ou une écoute mobile, comme on dit, pour écouter vos radios préférées, mais aussi pour écouter désormais des témoignages, des enquêtes, des compléments d'infos, de belles histoires. Bref, en quelques minutes d'un montage sonore original, les podcasteurs vous raconte le monde. En studio aujourd'hui, pour nous en parler, Laurence Chabazon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission pour développer le podcast dans le groupe Bayard, notamment à La Croix, et vous avez lancé il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 semaines
Début janvier.
Début janvier, une série intitulée L'envers du décor, vous allez nous en parler.
L'envers du récit. Mais c'est,
ben oui,
c'est
l'envers
le jeu
du
de mots
décor,
qui...
voilà, l'envers du récit. Enfin, qui marche. Fanny Cohen-Moreau, bonjour.
Bonjour.
Les auditeurs vous connaissent, mais ne savent pas tout ce qu'ils vous doivent. Vous êtes l'assistante de la matinale d'RCF, animée par Stéphanie Gallet, chaque matin, dans l'ombre. Pour que les auditeurs commencent bien la journée, vous êtes présente. Mais vous êtes aussi passionnée de podcasts que vous réalisez et que vous écoutez aussi à longueur de journée. Vous nous en parlerez. Clément Saccard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez d'ailleurs travaillé à RCF pendant quelques temps et vous avez fondé les podcasts Magma, qui donnent la parole aux témoins de l'histoire, là encore, des histoires à raconter. David Carzon, bonjour.
Bonjour.
Après avoir travaillé essentiellement dans la presse écrite, vous êtes aujourd'hui directeur de la rédaction de la plateforme Binge Audio. Vous proposez par le podcast des séries autour de questions d'actualité que vous travaillez à partir de témoignages, d'histoires, de récits et bien d'autres choses encore dont vous allez nous parler. Le podcast, mais oui, pour se mettre à l'écoute du monde. C'est le thème du jour de Grand Angle, c'est tout de suite sur RCF.
RCF, Grand Angle, présenté par Christophe Hénin.
Laure Chabazon, alors La Croix, quotidien papier, présent sur le web, a voulu se lancer aussi dans la création de podcasts. C'est un complément qui est apparu comme indispensable.
Indispensable, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais en tout cas une très grosse envie de déployer La Croix aussi sur ce nouveau mode d'expression en pleine ébullition. Ça nous a donné très envie de nous lancer, au moins pour tester.
Mmh. Avec donc l'envers du récit, il va falloir nous expliquer le sens de des podcasts, justement, de cette série que vous avez créée. Sachant qu'il y a aussi, vous êtes sans doute concerné, une chaîne qui va se développer autour du métier de journaliste, par ailleurs.
Oui, là, c'est une chaîne vidéo. Je pense que c'est ça dont vous parlez.
Exactement.
Qui se lance, voilà, donc dans très très peu de jours, jeudi, qui s'appelle Média dans l'arène et qui est donc une série vidéo à retrouver sur YouTube.
Voilà, ça voilà. Maintenant c'est dit, on le sait et on vous retrouvera. L'envers du récit, de quoi s'agit-il ?
Alors l'envers du récit, c'est une série audio, donc un podcast qu'on peut écouter partout, on peut écouter du podcast. Et sur La Croix, évidemment, et sur l'appli La Croix. Et l'idée, c'est que on raconte les coulisses d'un reportage. Et c'est le journaliste qui a fait le reportage qui nous raconte comment il a vécu les choses, comment il s'est lancé dans ce reportage, pourquoi il y est allé, comment ça s'est passé sur place. Et puis aussi, ce qui a pu se dérouler depuis. Puisque nous, on est dans l'écrit, donc il se passe quelque chose, le journaliste écrit, puis c'est un petit peu figé dans le temps, et en fait, c'est une histoire qui se passe bien avant et qui continue bien après, parfois. Mmh. Et donc, c'est l'ambition de cette série.
C'est pour ça que je parle aussi de la chaîne vidéo. Il y a tout un travail autour du métier du journalisme et de la presse.
Oui, en fait, on est tout à fait interrogé en ce moment, hein. Interrogé, voire un peu bousculé aussi dans les métiers de journaliste. Et la série L'envers du récit, comme le fera la chaîne, la série YouTube, s'interroge sur ce que c'est ce métier de journaliste. Donc L'envers du récit, c'est plus des histoires. Donc là, on est vraiment, le journaliste nous raconte quelque chose, nous raconte quand il était sur le terrain. Alors que la série vidéo, ça va vraiment être se regarder dans le miroir en tant que média, en tant que journaliste, et décortiquer la façon dont nous, journalistes, médias, adressons certains sujets ou en parlons dans nos médias. Donc bon. C'est un peu introspectif.
Voilà, ça on verra, on fera peut-être une autre émission sur les métiers de la presse et les médias, pourquoi pas. Aujourd'hui, le podcast, le plus simple c'est d'écouter un des podcasts que vous avez donc créé. C'est l'épisode 7, hein, puisque c'est vraiment une série, avec Emmanuel Giuliani qui va nous raconter son reportage.
Emmanuel Giuliani dirige le service culture du quotidien La Croix. De Berlin à Munich, elle a suivi la tournée allemande de l'Orchestre National de Lyon. 100 ans après l'armistice, une tournée symbolique à l'occasion des commémorations de la Grande Guerre, placée sous le signe de l'amitié, de Bach et de la musique. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, épisode 7. Le pouvoir universel de la musique, une histoire franco-allemande.
Je suis Emmanuel Giuliani, je travaille à La Croix depuis maintenant une quinzaine d'années, peut-être même un peu plus, et environ la moitié comme responsable de la rubrique musique classique au sein du service culture de La Croix. Et j'avais envie de vous raconter un reportage, et plutôt ces coulisses, que j'ai eu la chance de faire il y a quelques mois à Leipzig avec l'Orchestre National de Lyon. Alors tout commence à la rentrée de septembre avec une proposition de Hélène Segré. Hélène Segré, c'est une attachée de presse, comme il y en a beaucoup dans le monde de la culture, très sympathique, très efficace, donc quand elle propose des choses, j'ai l'oreille aux aguets. Et là, sa proposition est tout à fait alléchante à plusieurs titres. Elle me propose donc de suivre une étape de la tournée d'un orchestre, et une tournée d'orchestre est toujours un moment un peu particulier, un peu une colonie de vacances pour adultes et pour artistes, où le groupe se retrouve ensemble pendant un long moment dans un voyage artistique et humain également. Donc déjà, ça c'est incitatif. L'orchestre, c'est l'Orchestre National de Lyon, qui est un des très bons orchestres français, mais c'est vrai que ces derniers temps, je l'ai un peu moins suivi, parce qu'il y a beaucoup d'orchestres d'actualité musicale, et je me le reproche un peu, d'autant plus que cet orchestre, il est en pleine mutation, il y a eu beaucoup de recrutement de jeunes instrumentistes, donc c'est toujours une patte nouvelle au point de vue sonore. Autre élément qui attire mon attention et mon affection déjà, c'est qu'il s'agit d'aller en Allemagne. L'orchestre va faire une tournée allemande. Alors, aller faire de la musique en Allemagne, on peut se dire, c'est pas extraordinaire vu que c'est une des patries de la musique, on le sait bien.
Voilà, ça c'est donc le podcast L'envers du récit. Emmanuel Giuliani, qui raconte, journaliste à La Croix, qui raconte comment elle a suivi cet orchestre. Laurence Chabazon, justement, c'est. Alors, il faut de la technique derrière. Il n'y a pas que le journaliste. Donc, c'est un travail aussi de montage, de mise en onde, presque, on peut dire. Hein. Pour la suite de l'histoire, faut aller voir hein, sur le site de La Croix et écouter ce podcast hein, qui dure une demi-heure. C'est aussi un format intéressant.
Oui, un petit peu de technique, en effet. Hein, le journaliste se lance pas tout seul. C'est quelque chose qu'on a fait en interne. Donc, on avait des gens qui savaient faire des choses en interne et on en a profité. Et on a appris aussi en faisant. Et on a surtout travaillé en amont avec chacun des journalistes. Il y a un vrai travail avant qu'il puisse raconter son histoire pour que ça rentre dans un format et puis que ce soit une vraie histoire. On entend toujours le journaliste qui nous raconte tout seul. C'est pas une interview. Donc, une histoire, ça se construit, ça se travaille. Surtout à l'avance, voilà, pour que les récits se tiennent et puis qu'on soit dans une logique de série, que les épisodes aient une patte, voilà, quelque chose de commun.
Alors vous avez commencé avec un voyage à bord d'un porte-container sur la piste des Rois Mages par la suite. Oui. Donc on est pratiquement au dixième épisode bientôt.
Oui, on est au huitième épisode.
Voilà, et un épisode par semaine.
Un épisode par semaine, un rendez-vous hebdo. Et on a terminé la saison 1. Donc voilà, on vient tout juste de terminer cette saison 1 et on prépare la saison 2 sur le même principe.
David Carzon, vous avez travaillé en presse écrite. Ce déploiement qui est permis par le podcast, vous le voyez comment ?
Alors j'ai beaucoup aussi travaillé dans le web, dans des médias. Ce qu'il faut dire déjà, c'est que le podcast ne va pas sauver la presse. Par contre, c'est un outil extrêmement intéressant pour nouer un lien différent avec l'auditeur. On lui raconte des histoires et on retrouve la manière qu'on a un peu perdu de tisser un lien avec lui, un lien de proximité, un lien d'intimité qui permet de se rapprocher et de lui dire aussi des choses qu'on ne pouvait pas lui dire jusqu'à présent. Dans le cas de l'envers du récit, on lui raconte les coulisses, on lui raconte comment travaille un journaliste, on lui montre l'envers du décor, d'où le titre. Et effectivement, le journaliste devient conteur aussi. Il devient conteur de sa propre histoire. Il met dans ses récits des choses qu'il n'a pas pu mettre dans son article en se mettant en scène. Et ça donne aussi de la chair et du corps au journaliste qui n'est pas seulement une signature dans un journal, mais qui est quelqu'un qui vit des choses et qui peut raconter aussi la manière dont il a vécu les choses. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque l'auditeur aussi attend de s'informer, mais il attend surtout aujourd'hui qu'on lui raconte des histoires dans une période où le flux d'informations, on le subit plutôt qu'on le maîtrise. Et ce moment de prendre le temps d'essayer de comprendre comment se font les choses, le podcast permet ça, ne serait-ce que par la manière de l'écouter. C'est-à-dire que la radio, on va l'écouter en faisant autre chose, on peut partir dans une pièce, revenir. Le podcast, on va être au casque, on va être dans le transport en commun, on va faire une activité qui nous permet d'être attentif. Et cette attention-là, il peut le mettre au service de cette histoire.
Merci. Alors là, on voit, hein, c'est les journalistes qui sont interrogés, que vous... pour chasser peut-être Laurence, hein, en disant non, est-ce qu'il n'y a pas une belle histoire.
Non, c'est vraiment
ils sont volontaires.
Ouais, ils sont très très volontaires. C'est ce que dit David aussi. C'est le fait de donner chair comme ça à un récit, et pour eux et pour les gens qui les écoutent, c'est vraiment précieux parce qu'en fait ils ont plein d'histoires à raconter et c'est des gens qui vont sur le terrain, faut pas l'oublier. C'est pas des gens qui sont derrière des ordinateurs, qui cherchent des infos, qui trient des infos, qui cherchent des chiffres. Ils sont sur le terrain et ils vivent en effet des choses et donc ils sont très demandeur d'aller de venir nous raconter ces histoires et c'est les histoires qu'ils racontent, c'est ces histoires qui les ont marquées. Donc c'est des choses qu'ils portent et ils sont tout à fait venus nous les proposer.
Alors ça, ce sont les journalistes qui racontent les histoires. À voir hein, pendant l'émission que le podcast permet plein de choses. Clément Saccard, vous c'est différent. Vous êtes journaliste, vous suiviez un petit peu l'information aussi, comme les journalistes de La Croix. Mais vous êtes dit non, moi ce qui m'intéresse, c'est plus cette information immédiate qui revient, mais un retour sur des grands événements. Et vous avez du coup créé Magma, expliquez-moi.
Exactement. En fait, j'étais donc journaliste, je m'occupais de l'actu locale. Et j'étais un petit peu frustrée par cette urgence de traiter l'information. Souvent, j'avais besoin de prendre plus le temps et j'étais très attirée par les récits longs. Donc, c'est tout naturellement que j'ai créé mon propre podcast où je pouvais vraiment partir de zéro et choisir effectivement d'aller interroger ces témoins de l'histoire, des anonymes pour la plupart qui ont vécu des événements marquants et qui racontent comment ils ont traversé ces événements qui sont parfois très durs.
Donc là aussi, il y a d'abord trouver ces témoins que vous allez rechercher, interroger, les faire parler, les faire raconter et puis aussi prendre le temps de rentrer dans ce récit.
Prendre le temps, tout à fait. Le podcast s'y prête puisqu'on n'est pas en direct. On a le temps de vraiment instaurer.
On n'est pas tenu par les horaires comme les émissions.
Voilà, on n'intègre pas une grille de programme, ce qui fait qu'on peut vraiment prendre le temps de mettre son interlocuteur en confiance. En l'occurrence, moi, j'interroge des gens qui ne sont pas habitués aux médias, à la radio, au podcast. Donc voilà, il faut toujours les mettre à l'aise et puis les faire parler d'eux-mêmes, de leur propre vie. Donc, c'est pas forcément facile pour eux.
Mmh. On va écouter Annette Colère que vous avez rencontrée pour qu'elle raconte justement la chute du mur de Berlin.
Salut, vous écoutez Magma. On a en tête, quand on pense à la date du 9 novembre 1989, les images d'une foule survoltée, pioche à la main, sur le mur de Berlin pour le détruire. C'est l'image historique par excellence. L'un de ces rares moments clés qui ont fait changer la face du monde. En Europe, c'est l'un des événements géopolitiques les plus marquants de l'après-guerre. Il est majeur parce qu'il est fondateur. Et aujourd'hui encore, on y fait référence pour évoquer la fin de la guerre froide entre les démocraties occidentales et les régimes communistes. En 1961, les autorités communistes de l'Allemagne de l'Est justifient sa construction par le besoin de mettre fin aux activités hostiles des Occidentaux. Et très vite, 155 km de béton, de barbelés et de grillages sortent du sol. Le pays est matériellement divisé. Des familles sont séparées et avec lui, le mur de Berlin scinde le monde en deux. Tout cela pendant 28 ans. Lorsqu'il s'effondre cette nuit de novembre 89, le mur de Berlin emporte avec lui la RDA et accélérera indirectement la chute de l'URSS dès l'année suivante. Lorsqu'on est né à l'Est, que le mur est déjà là et qu'on a grandi avec, qu'est-ce qu'on ressent lorsque tout à coup il disparaît? Qu'attend-on de l'autre côté? Est-ce qu'on attend quelque chose de l'autre côté? Est-ce que l'Ouest est exactement comme on se l'est imaginé? Ou bien c'est différent? Ou bien c'est décevant? Et puis que se passe-t-il après les quelques jours d'euphorie qui suivent la chute du mur? Est-ce que l'héritage de l'Est est facile à porter? À toutes ces questions, mon invité peut y répondre. Lorsqu'elle avait 18 ans, au moment même où elle débutait sa vie de femme, elle vit la chute du mur et avec elle, la chute de ses repères. Je suis Clément Saccard et voici l'histoire d'Annette Kela.
Et bien voilà, l'histoire d'Annette Collard, vous allez pouvoir l'écouter sur le podcast Magma. Comment vous choisissez vos sujets, hein? Il y a le 11 septembre bien sûr, la création du Téléthon, le sauvetage du Louvre.
Je choisis pas forcément l'événement historique. Je pars souvent de la personne qui a une histoire à raconter à travers cet événement-là. Ça peut dépendre, mais voilà, il y a les événements majeurs. On pense tout de suite à la chute du mur de Berlin au 11 septembre, vous l'avez dit. La création du Téléthon, c'est vrai qu'en termes d'événements historiques, on n'y pense pas forcément. Et pourtant, il y a une histoire assez incroyable derrière. Donc, c'est toujours intéressant d'aller chercher les personnes qui ont ces histoires, justement.
Alors, on voit aussi, là, vous publiez, j'allais dire, oui, un podcast par mois.
Oui, une fois par mois.
On voit aussi qu'il est un peu plus long, hein, 37 minutes. À peu près.
Pour le format, oui, c'est entre 30 et 40 minutes,
entre
plus
30
40 d'ailleurs.
Minutes. Mmh. Voilà, et puis aussi beaucoup de montage, d'habillage musical. Fanny Cohen-Moreau, vous en produisez, alors vous allez nous en parler après, mais vous en écoutez beaucoup aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par ces podcasts? Qu'est-ce qui change par rapport, plutôt qu'à se brancher sur la radio? Enfin, il faut vraiment écouter RCF de temps à autre.
Mais... Bah là, en fait, pardon, excuse-moi, c'est le côté intime de la radio, mais juste pour soi. Parce que c'est sur son téléphone, c'est quand on veut. Excusez-moi. C'est quand on veut. En fait, on se dit, bah, je veux l'écouter mon podcast à 6h30 du matin ou à 15h30 l'après-midi. C'est vraiment notre moment. Donc, pour moi, c'est là où ça marche beaucoup, le podcast.
Ça veut dire aussi que comment on va trouver, parce que là aujourd'hui il y en a quelques exemples qui sont autour de la table, mais comment on va trouver le podcast qui raconte les histoires que j'aime et en même temps se garder une possibilité de découvrir?
Pour l'instant, il n'y a pas encore de site référence où trouver son podcast. Il y a plein de sites différents, d'annuaires, de classements. Donc, malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai que pour un auditeur...
Au petit bonheur, la chance.
Voilà, c'est vraiment... Mais si on tape classement, podcast, annuaire, podcast sur Internet, vraiment, vous trouvez beaucoup de choses. Et il y a plein d'applications aussi de podcast avec des parties recommandations. Donc, peut-être en fonction de ce que vous écoutez.
Avec
aussi,
des mots-clés.
Voilà, avec des mots-clés, avec des nouveautés. Voilà, si vous aimez, donc comme le podcast de Clément, si vous aimez l'histoire, donc vous pouvez taper histoire. Si vous voulez écouter plutôt un podcast sur la science, il faut se dire qu'il y a des podcasts sur tous les sujets. Pour vous dire, j'ai même découvert un podcast sur Michel Sardou. Donc, tout est possible dans
et
le podcast.
Pas.
Voilà. Donc, il faut vraiment se dire que moi, actuellement, j'en écoute à peu près 2 à 3 heures par jour. Et je peux vraiment en conseiller un podcast à tout le monde. Vraiment, alors, quels sont tes sujets d'intérêt? Je peux trouver un podcast qui te correspond.
Alors, vous en écoutez plusieurs heures par jour. Ça veut dire que vous allez voir des choses que vous connaissez pas du tout, ou alors, vous ne loupez aucun des épisodes de Magma?
Eh bien, les deux, en fait. Parce que j'ai mes podcasts chouchous, oui, comme Magma, et aussi comme L'Envers du Récit, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai mes chouchous, et en fait... moi surtout c'est par les réseaux sociaux que je trouve des nouveaux podcasts. En fait je discute avec des personnes qui en écoutent aussi, qui me disent ah tiens regarde il y a celui-là, il y a ces nouvelles choses et tout ça, et donc je suis pas mal l'émergence. Donc j'essaie d'en écouter 1 ou 2 nouveaux podcasts par semaine, vraiment. Je me dis allez, vraiment j'essaie de m'ouvrir en fait et de me dire allez je vais me forcer à écouter quelque chose qui va peut-être me déranger, peut-être qui me plaira pas et j'écouterai juste un épisode et pas plus. Mais pour se forcer, en fait, ce que j'aime beaucoup dans le podcast, c'est à trouver le point de vue d'autres personnes, des personnes qui vont parler de choses que moi de mon point de vue je n'aurais jamais vu les choses comme ça. Donc ça aide vraiment un peu à s'ouvrir l'esprit, les podcasts.
Il y a le fond, la forme aussi qui joue.
Oui, moi clairement voilà, moi je suis un petit peu difficile difficile, c'est que si un podcast a un mauvais son, clairement, je n'écoute pas. Donc, mais heureusement, aujourd'hui, la plupart des personnes font quand même un effort pour avoir un bon son. Et oui, mais j'écoute autant des podcasts qui font 5 minutes que des podcasts qui font 2h30.
Voilà. 2h30.
Oui, c'est ça, liberté d'un podcast, en fait. Et c'est une des différences majeures avec la radio. C'est qu'il n'y a pas de, ce que disait Clémence, en fait, c'est que on n'a pas de limite dans la durée. On peut vraiment se faire plaisir. Par exemple, un podcast qui fait 2h30 s'appelle Le Roi Stephen. C'est à chaque épisode, en fait, les podcasteurs parlent d'un livre de Stephen King. Donc ça va être long, mais comme en fait ils parlent de l'histoire du livre, et ben en fait on suit l'histoire avec eux. Donc c'est encore une autre forme d'histoire. Et voilà, bon, bien sûr, ils divulguent, ils racontent toute l'histoire, mais on suit avec eux, ils donnent leurs réflexions. C'est souvent un petit peu rigolo, c'est un bon moment à passer avec eux.
S'il nous reste du temps pour lire, c'est encore mieux.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme.
L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. Et s'il le faut, je vais les changer, moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime.
Stromae chante Carmen, le podcast à l'écoute du monde, c'est Grand Angle sur RCF aujourd'hui avec Laurence Chabazon, Fanny Cohen-Moreau, Clémence Accard et David Carzon.
Grand Angle, Christophe Hénin.
Alors on voit dans vos initiatives diverses qu'il y a alors vraiment différentes formes, la production de podcasts dans un média, dans une entreprise, la production individuelle, presque intime. Fanny Cohen-Moreau, vous en écoutez beaucoup, mais vous en fabriquez aussi, vous nous en parlerez tout à l'heure. David Carzon, alors, Binge, c'est plus gros que ça. Ça rassemble beaucoup d'initiatives et c'est un travail à la fois collectif et qui respecte l'individuel. Je sais pas comment, expliquez-nous
un peu.
En fait,
nous, on se considère comme un média. On a aujourd'hui, on produit 25 émissions en propre. On travaille aussi pour des tiers, on travaille pour des médias. On distribue aussi un certain nombre de podcasts de gens qui veulent s'affilier avec nous. Mais on travaille exactement comme un média. On décide, on produit un certain nombre d'émissions nous-mêmes et on décide des territoires qu'on a envie d'explorer. Après, la question, c'est quel territoire on a envie d'explorer qui ne soit pas ceux des médias plus mainstream. Donc notre envie, c'était d'aller donner la parole à des gens qui sont capables aujourd'hui d'expliquer le monde dans lequel on vit. C'est des gens qui sont capables de parler de la culture populaire, mais de manière érudite. Et au final, ce qu'on avait envie de faire, c'est de parler à un public plus jeune que celui qui consulte les médias, donc on s'adresse plutôt aux 18-35 ans. On s'adresse à eux, avec eux, avec des codes d'aujourd'hui, c'est-à-dire, vous avez entendu autour de la table, on parle de saison, on parle de série, on parle comme les codes de Netflix. Enfin, c'est ça aujourd'hui, binge audio, ça vient d'un anglicisme barbare qui est binger, c'est-à-dire consommer frénétiquement du son ou de l'image. Mmh. Et donc, c'est aussi ces modes de consommation-là. On s'adresse à ce public en faisant le pari que aujourd'hui, il n'a pas ce qu'il attend des médias pour qu'il soit en phase avec la manière dont lui regarde le monde. Et c'est aussi quelque chose de qui est un peu politique derrière, c'est-à-dire qu'on donne, c'est pas seulement qu'on tend le micro aux gens pour qu'ils parlent, c'est qu'on donne le micro à un certain nombre de personnes pour qu'ils fassent des émissions. Moi, j'estime que je suis trop vieux aujourd'hui pour comprendre le monde, pour l'expliquer. Donc, autant que ce soit ceux qui sont plus jeunes, qui ont envie de le faire, qu'ils le fassent. Et nous, notre boulot, c'est plutôt de les encadrer et faire en sorte qu'ils fassent les meilleures émissions possibles. Et donc, on a toute une génération comme ça d'animateurs, de producteurs, de journalistes qui sont venus à nous. Ça s'est fait de manière un peu empirique, on l'a un peu intellectualisé après, mais ils sont venus à nous en disant on n'a pas d'espace ailleurs, on a envie d'avoir notre espace, on a des choses à dire, on a envie de les raconter, et nous on est capable d'expliquer le monde tel qu'il est vraiment aujourd'hui. Et ça c'est pour toute la partie sociétale, c'est comme ça qu'on a construit nos émissions. On a fait une rédaction un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on a fait des verticales avec les émissions, les territoires éditoriaux qui nous intéressaient, et puis on a construit une rédaction autour de ça. Donc on considère qu'on est un média aujourd'hui, qu'on n'est pas un média généraliste, mais un média qui s'intéresse à des territoires qu'on estime aujourd'hui pas assez explorés.
Alors par exemple
médias.
Ces territoires font...
Bah, par exemple, il y a les questions de diversité, de féminisme, il y a les questions de minorité, les questions de corps, et puis on a une émission, un podcast d'actu quotidien qui s'appelle Programme B et qui essaye de trouver, de sortir du hard news, de l'actualité chaude pour trouver les questions de société qui se cachent derrière les questions d'actualité. Aux États-Unis, ça s'appelle un explainer, c'est-à-dire on décrypte l'actualité, on essaie de comprendre ce qu'il y a pour que les gens aient les clés pour se dire voilà, je comprends l'actualité et j'ai les clés pour la comprendre.
Par exemple, grand débat, où sont les jeunes? La TVA, ça sert à quoi? Jeune Instit, à quoi servez-vous? Et j'en passe, et il y en a, voilà.
Tout à fait.
Du coup, vous avez effectivement un travail donc d'information aussi, et de communication, de loisirs aussi, parce qu'il y a, il y a des podcasts aussi plutôt amusants, plutôt.
Oui, on a tout un pôle culturel. Alors le premier podcast historique de Binge Audio, c'est Nos Ciné. Donc ça parlait du cinéma de genre, cinéma populaire, mais on le fait avec des gens qui ont une culture cinéma absolument dingue et qui en parlent de manière extrêmement érudite. On a appliqué la même recette à la musique urbaine avec un podcast qui s'appelle No Fun. Et puis par exemple, on s'attache aussi à la cuisine, c'est un domaine qui nous intéresse. On a demandé à Zazie Tavissian de s'intéresser, de nous parler autrement de la bouffe aujourd'hui. Et elle l'a fait dans une première saison qui est un peu narrative à travers son histoire personnelle. On fait une saison 2 qui est plus sur les sujets d'actualité autour de la cuisine et puis de comment on mange aujourd'hui. Et puis on imagine déjà une saison 3 qui sera un peu différente.
Ben on va écouter justement un extrait de la pizza Fantasia de Paolo.
T'es prêt à passer à la casserole ?
Ouh. Oui, je suis prêt à passer à la casserole.
Casserole, épisode 7. La pizza Fantasia de Paolo.
Non, ce que je trouve quand même attachant, ce que mon père faisait en fait. Il a inventé des recettes pour ne pas nous faire sentir... la condition dans laquelle on était, mais nous, on ne s'en apercevait pas. Et je trouve ça très mignon de sa part.
Je ne pouvais pas ne pas consacrer un épisode de casserole à Paolo, mon amoureux. Déjà, car la nourriture nous lie de façon évidente. On a eu notre premier encart dans un bar qui s'appelle La Chope, puis un coup de foudre gustatif en plantant nos cuillères au même moment dans un velouté de champignons à notre deuxième rencard. Il faut dire qu'à l'époque où j'ai rencontré Paolo, je travaillais pour un guide pour lequel j'allais très souvent au restaurant, et où mes additions étaient remboursées pour deux. Ce qui fait que tout le début de notre histoire s'est passé essentiellement à table, à discuter, à manger, à analyser ce que l'on goûtait, tout en nous sondant l'un et l'autre. Je voulais aussi interviewer Paolo, car il est italien, et que j'avais envie de parler à travers son histoire des clichés que l'on peut avoir sur la gastronomie italienne, mais aussi sur les Italiens et sur les étrangers en général. Aujourd'hui, on est chez moi, enfin chez Paolo et moi, dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement de Paris. Paolo va me cuisiner un plat de son enfance, la pizza Fantasia. Je lui ai d'abord demandé d'où venait ce plat.
Alors, la pizza Fantasia, c'est un plat qui s'appelle comme ça parce qu'il rappelle la pizza.
C'est un plat qui est connu en Italie ou c'est un plat de ta famille ?
Bah, disons que c'est vraiment un plat familial. C'est-à-dire, si tu vas dans la rue et tu demandes à quelqu'un, tu connais la pizza Fantasia, on te regarde sûrement bizarrement, on te prend un peu pour un fou.
La pizza Fantasia de Paolo. Alors, on pourrait écouter encore hein, ce podcast. On sent, David Carzon, que il y a à chaque fois la possibilité d'une véritable expression très personnelle dans ces podcasts. Moi, j'en ai écouté pas mal pour préparer l'émission. J'en ai retenu quelques-uns, mais à chaque fois, on sent un investissement très, très personnel, oui, c'est bien l'enjeu.
Ouais, c'est ça. C'est un outil où l'auteur ou le journaliste a la capacité de se mettre beaucoup plus en avant. Ça peut même prendre parfois la forme d'une quête personnelle. C'est pas dans les canons habituels du journalisme. D'habitude, le journaliste se retranche derrière l'info, hormis certaines stars, mais c'est plutôt ça l'habitude. Là, c'est l'inverse. Et c'est là où moi je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ça donne de l'humain à la manière dont on raconte les choses. C'est comme ça qu'on raconte des histoires. C'est aussi à partir de choses personnelles. C'est comme ça qu'on choisit des sujets. Enfin, souvent, on se retranche derrière une objectivité qui n'existe pas. C'est pas forcément
le fil de l'actualité.
Tout à fait, où elle s'impose. Là, il y a quand même une question de choix, d'envie de raconter les choses à sa manière et de le faire en toute transparence avec l'auditeur, de pas se cacher derrière cette pseudo-objectivité. Le contrat qui est passé avec l'auditeur, c'est de dire je vais vous raconter une histoire à ma manière, je vais être présent dans cette histoire, je vais être le passeur, je ne vais pas disparaître, mais par contre, je vais vous la raconter du mieux possible.
Laurent Chabazon, c'est un petit peu aussi le pari que vous avez lancé à la rédaction de La Croix.
Un petit peu, oui, c'est aussi d'incarner ces plumes, ces signatures qu'on voit en bas d'un article.
Mais c'est pas dans l'habitude quand même de s'exposer.
Non, c'est pas du tout dans l'habitude. Je pense en général de la presse écrite, pas non plus dans celle de La Croix. Donc c'est vrai que c'est un exercice particulier. C'est pour ça aussi qu'on travaille avec les journalistes avant qu'ils le fassent. Mais ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien aux journalistes qui portent cette histoire. Et puis on a eu beaucoup de retours. De lecteurs actuels de La Croix, de gens qui découvraient le récit et qui après avaient envie d'en savoir plus, donc sont allés sur La Croix, du type « Ah, mais c'est lui que je lis, ah, c'est lui qui porte tel sujet, bah, c'est chouette de l'entendre. » Voilà, c'est ce que dit David, hein, c'est vraiment de l'humain. Et je crois que on est beaucoup à avoir envie de ça, des histoires et de l'humain pour nous les raconter. Mais c'est vrai que c'était pas un mouvement évident du tout
de s'exposer
à faire,
en quelque sorte.
Voilà, de s'exposer, d'adopter le jeu, de se mettre un petit peu en scène aussi. C'était pas un exercice naturel.
Clément Saccard, vous, dans votre démarche, il y a aussi, pour commencer, cette rencontre de quelqu'un d'autre. Comment vous arrivez à sentir si, ah là, il y a une histoire?
C'est vraiment en discutant avec la personne avant de commencer l'interview. Déjà, il y a une partie pré-interview.
Avant même de lui promettre, peut-être.
De lui promettre.
Qu'il y aura bien un épisode.
Oui, bien sûr. Mais comme je le disais, ce sont des personnes qui n'ont pas l'habitude forcément de s'exprimer. Mais quelque part, elles sont contentes parce que ce sont donc des anonymes témoins de l'histoire, oubliés justement dans le temps de ces grands événements. Normalement, on a l'habitude d'entendre des historiens pour revenir sur des grands événements. Et là, on va rechercher ces personnes qui ont vu leur vie bouleversée. Je m'intéresse beaucoup au processus de reconstruction et ces personnes ont vécu quasiment systématiquement des bouleversements. Et je crois que quelque part, c'est gratifiant pour elles de raconter un petit peu comment elles ont traversé tout ça.
C'est un besoin, vous sentez un besoin de se raconter ?
Oui, sûrement. Sûrement, quand on a vécu quelque chose comme ça, l'urgence de l'information fait qu'une actualité en chasse une autre et on a tendance à oublier que derrière chaque événement historique, il y a des vies, en fait, des personnes qui résument en fait tout leur parcours à travers cet événement historique-là. J'ai évoqué dans un épisode le génocide cambodgien. Bien sûr, quand on l'étudie, on a un nombre de morts, on a des dates clés, mais on a tendance peut-être à oublier qu'il y a à chaque fois des histoires de famille, des parcours, et que beaucoup de personnes ont vu leur vie brisée en fait finalement.
David Clarzon, ce besoin de se raconter, vous le sentez aussi, vous l'avez dit vous-même, donc un peu plus de recul que les autres invités autour de cette table. Oui, ce besoin de raconter qui s'impose un peu petit à petit dans le monde d'aujourd'hui.
Alors c'est le journaliste a besoin de se raconter, effectivement, celui qui est de l'autre côté aussi a besoin de se raconter. Enfin, le podcast est vraiment quelque chose qui permet une intimité du récit. On se livre et on parle à une personne en particulier. C'est pas la radio qui parle à plusieurs, qui parle à un grand nombre. Là, on sait qu'on s'adresse à une personne. Et donc, c'est le média idéal pour créer ce genre de relation intime entre un auteur et un auditeur. Et comme c'est des formats de récits qui peuvent être assez longs, on peut prendre le temps. C'est quand même intéressant de se dire que c'est le sujet qui dicte le format. On n'est pas dans des cases. On est dans un endroit où un podcast, il peut durer 5 minutes, 15 minutes, 25 minutes. C'est selon l'intérêt qu'on en fait la durée. Et c'est une liberté incroyable. Donc à partir du moment où on ouvre des espaces de liberté, on ouvre des espaces de parole. C'est assez évident.
Mais tout ça, alors on peut récolter les paroles, mais on parlait de qualité du podcast. Fanny Cohen-Moreau, comment on fabrique ça? Il y a beaucoup de montage, il y a de la musique à ajouter, peut-être du bruitage, pourquoi pas. Comment on gère un podcast?
Alors,
ça dépend de chaque podcasteur.
Oui, en fait, voilà, je vais répondre ça. Mais par exemple, moi, je peux parler des podcasts que j'aime bien. Vraiment, ça va être les podcasts où on respecte autant l'auditeur que la personne qui est interviewée, ou en tout cas que le récit. C'est-à-dire que on habille bien son podcast, on met des bonnes ambiances sonores, on essaie de faire en sorte que la personne qui est interviewée, son récit n'est pas trop coupé. On lui laisse le temps de s'exprimer. Et après, c'est vrai que le montage prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, parfois, des personnes en font moins en disant, voilà, là, de toute façon, mon invité parle bien, j'ai pas besoin de faire du montage. Mais effectivement, faire un podcast peut prendre beaucoup de temps. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, hop, c'est bon, j'ai enregistré, je mets sur Internet. Non. Si on veut vraiment faire quelque chose de joli, en plus, voilà, on soigne sa description d'épisode, on met un petit peu, voilà, on remet des éléments de contexte pour que si on tombe sur un épisode, avant même de l'écouter, on voit sa description sur son application, sur Internet, et on sait déjà à quoi on va avoir affaire. Donc, le travail de mise en ligne d'un podcast peut vraiment prendre beaucoup de temps après juste l'enregistrement.
Alors, vous-même, vous allez peut-être présenter, par exemple, un extrait de vos podcasts qu'on va écouter. Ce sont des histoires du Moyen-Âge que vous voulez raconter.
En fait, oui, moi, je suis partie du principe que en radio, dans les médias en général, quand on entend parler d'histoire et de Moyen-Âge, c'est souvent des historiens, voilà, qui sont reconnus. Et je me suis dit, mais des personnes aujourd'hui, en fait, font des études d'histoire, en master ou en thèse, mais qu'est-ce qu'ils étudient? Parce qu'en fait, est-ce qu'on connaît tout sur Moyen-Âge? Bon, en fait, non. Donc, je pars du principe, voilà, j'interviewe des personnes qui font des masters ou des thèses, qui me parlent de leur sujet, mais aussi de ce que c'est de faire un master ou une thèse d'histoire médiévale, les difficultés, le fait de sentir le vieux parchemin en sortant des archives, et je mets leurs paroles en son comme ça.
Eh bien, on va écouter.
Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive.
Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28.
Une thèse sur quoi?
Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru.
Au lac de
Paladru.
Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient.
Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge? Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge? En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans cette émission, on met un peu de côté les châteaux forts et les chevaliers pour s'intéresser à comment l'histoire médiévale est étudiée aujourd'hui par des jeunes chercheurs, quels sont les sujets qui les intéressent, pour vous donner envie d'en savoir plus et pourquoi pas donner de l'inspiration à de futurs médiévistes. Épisode 4, Lucie et les sauts de princesse, c'est parti.
Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse.
Pour ce quatrième épisode, nous recevons Lucie Jardot. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Tu es étudiante en histoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et en juin 2017, tu as présenté un mémoire intitulé « Les sceaux des comtesses de Flandre et de Hainaut du XIIIe au XVe siècle » sous la direction d'Olivier Matteoni. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce sujet ?
Alors j'ai voulu choisir ce sujet tout d'abord parce que j'avais fait de l'histoire de l'art pendant ma licence, et donc ça me permettait de faire aussi bien de l'histoire politique que de l'histoire des représentations, et donc d'étudier l'histoire médiévale par un objet qu'on étudie finalement très peu, qui est le sceau. En M1, je me suis concentrée donc en fait sur les princesses initialement, c'était le sujet un petit peu large qui m'avait été donné par mes directeurs, et je me suis donc beaucoup posé la question au cours de mon M1, finalement qu'est-ce qu'une princesse? Et il en a découlé que les princesses étaient des femmes issues de la haute aristocratie, de la haute noblesse médiévale, et donc que ça englobait les comtesses, les duchesses, les vicomtesses. Et donc j'ai fait le choix de me consacrer aux comtesses de Flandre et de Hainaut. Comtesse de Flandre qui ensuite se mue en duchesse de Bourgogne, puisque la Flandre est rattachée à l'espace bourguignon au moment où les ducs de Bourgogne le récupèrent par un mariage.
Voilà, vous avez bien compris, hein, l'histoire des princesses, c'est une belle histoire qu'il faut poursuivre encore. Fanny Cohen-Moreau, alors, vous interrogez donc, hein, vous l'avez dit, hein, des chercheurs qui s'intéressent donc...
Des jeunes chercheurs.
Des jeunes chercheurs qui s'intéressent au Moyen-Âge. Quand ils acceptent, pourquoi ils acceptent de vous raconter
Déjà parce que c'est des personnes en fait qui travaillent souvent très seules. Faire une thèse, c'est un acte très solitaire. Et en fait,
qu'ils faisaient l'occasion de pouvoir en parler et qu'on les écoute, bah, ça leur fait beaucoup de bien. Vraiment, bah, là, c'est une personne qui était seulement en master, mais des fois, j'ai reçu des personnes qui ont fait 7, 8 ans de thèse, qui, voilà, ils portent
sur
leur...
Sur les princesses ou
ouais,
autres.
Ou sur d'autres. Voilà, l'avantage avec le Moyen-Âge, c'est que je peux faire ce podcast pendant des années, il y aura toujours des sujets. Mais voilà, c'est des personnes qui portent leur thèse comme un enfant, en fait, vraiment, et qui ne demandent que, qui sont vraiment pleins de ce sujet. Donc, ils peuvent en parler à une personne, voilà, c'est leur passion. C'est ça, pour ça que j'ai appelé mon podcast Passion médiéviste, c'est que c'est vraiment, c'est leur passion, et voilà, pour à quelqu'un qui va les écouter, qui va pas dire oh de toute façon c'est bon ta thèse, je m'en fiche, garde ça pour toi, et là vraiment qui va pouvoir dire bah voilà, j'ai fait ça depuis 7-8 ans, je parle de mon sujet, j'ai fait ça comme étude et tout ça, ça leur fait vraiment du bien. Et au début, bah moi j'ai fait un master d'histoire médiévale, donc mes premiers invités c'est des amis autour de moi, mais assez rapidement avec le bouche à oreille, quand j'ai dit que je cherchais des invités, j'ai vraiment là j'ai mes 6-7 prochains épisodes qui sont déjà enregistrés. Bon, je suis mensuel, donc ça va, mais je reçois toutes les semaines des demandes, voilà, j'aimerais passer dans votre podcast parce que je fais tel ou tel sujet. Il y a vraiment une demande de s'exprimer, et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que dans le podcast on peut vraiment s'exprimer ou là où les autres médias ne laissent pas forcément la place.
Alors David Carzon, on sent bien hein, ce besoin de s'exprimer, cette envie du podcasteur de partager quelque chose. Et qui écoute, on a une idée quand même derrière, je vais dire pas le poste cette fois-ci, mais comment on sait si on est entendu, écouté et entendu?
Alors on a des chiffres, enfin, je peux un peu vous parler des nôtres, pas forcément de l'ensemble de la consommation du podcast. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que les outils sont pas encore totalement adaptés à l'écoute. Enfin, il y a des applications, mais elles sont encore un peu compliquées pour découvrir du podcast. Mais on sait aujourd'hui que nous, on a envie de s'adresser aux 18-35 et qu'on touche cette cible du 18-35 par tous les biais qu'on peut trouver. Donc, on a des tags d'audience qui nous permettent de comptabiliser. On manque un peu d'audience qualitative pour essayer de vraiment définir qui nous écoute, mais on sent qu'on touche plutôt des jeunes. Mmh. Ce qui est intéressant et qui fait vraiment la différence avec les autres médias, c'est que, par exemple, on a des taux qui nous montrent que chaque programme est écouté à plus de 80%. C'est-à-dire qu'un podcast de 25 minutes, il va être écouté 20 minutes. Un podcast d'une heure, il va être coûté 50 minutes. C'est des chiffres que moi, je ne connaissais pas dans la presse, et la presse web notamment, où on a des chiffres en temps réel de lecture des papiers ou des sites web. C'est des chiffres qui sont assez réconfortants parce que on met à disposition des fois des programmes assez longs et les gens prennent le temps de l'écouter. L'autre chiffre qui est intéressant, c'est que les gens qui s'abonnent à un podcast, parce que ça marche beaucoup par abonnement via les applications Apple ou Android ou autres, et les gens qui s'abonnent téléchargent 80% des programmes auxquels ils sont abonnés. C'est-à-dire que c'est pas juste ils s'abonnent, ils le mettent de côté.
Ils
téléchargent les programmes, ils les écoutent et ensuite ils les archivent ou ils les enlèvent. Et donc il y a une affection particulière, il y a un geste particulier, il y a une fidélité que moi j'avais pas vu avant. Donc on manque de données qualitatives. Par contre, sur les comportements des auditeurs, les chiffres qu'on a sont extrêmement intéressants.
Ça veut dire aussi, Clément Saccard, qu'est-ce qu'on a gagné finalement quand vous faites les podcasts, vous avez le plaisir de la rencontre, on l'a dit, avec le témoin que vous allez interroger. Il y a sans doute aussi un réel plaisir à bidouiller, à organiser, à monter, à faire le montage. Qu'est-ce qui vous pousse à faire tout ça?
C'est très satisfaisant quand on est jeune journaliste de pouvoir créer son émission de zéro. C'est comme si on a une page blanche, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc l'espace de création est particulièrement intéressant. On s'intègre pas donc à une grille de programme, on n'est pas dans rattaché à une radio, donc on peut se permettre d'être très libre, de parler à la première personne du singulier, on l'a dit, voilà, de créer quelque chose vraiment qui nous ressemble. Et je crois que c'est ce qui est le plus satisfaisant, finalement.
Laurence Chabazon, bon, pour La Croix, on sait que ce développement des podcasts est intégré à un travail, à une démarche globale, si je peux employer ce terme-là. Mais vous qui êtes aussi sensible, j'imagine, aux autres podcasts...
Oui, j'en écoute beaucoup aussi.
Voilà. Quel équilibre économique peuvent-ils trouver?
C'est une vaste question qu'on me pose souvent en tant que chargée de mission de podcast à Bayard. C'est la question qui revient. Aujourd'hui, c'est vraiment en pleine explosion. C'est un peu à l'image des blogs à un moment donné.
voilà, c'est cette grande liberté, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de gens qui sont capables de répondre tout à fait de manière certaine à quel modèle économique tout de suite à court terme. Il y en a, il y a des pistes qui se dessinent. Pour ce qui est de la croix, c'est avant tout une nouvelle façon de dialoguer, en fait, avec soit
ça fait partie d'un ensemble.
Voilà, ça fait partie d'un ensemble, comme on le fait en vidéo. C'est aussi une démarche. Enfin, c'est une autre démarche, mais ça fait partie d'une un mot un peu gros aussi, une sorte de diversification. Mais c'est avant tout une façon nouvelle de dialoguer avec soit des gens qui nous connaissent déjà, soit des gens dont on n'est pas très loin mais qui n'ont pas eu l'occasion de nous rencontrer. C'est une façon d'aller vers eux. Il y a des habitudes qui se créent, il y a des gens qui écoutent déjà du podcast, qui écoutent beaucoup aussi qui réécoutent beaucoup d'autres émissions. Et c'est une façon pour nous d'arriver dans cet environnement où ils sont en train de prendre des habitudes. Et voilà, c'est une nouvelle opportunité de leur parler et de leur faire goûter à ce qu'on sait faire à la croix. C'est ça l'ambition, c'est de dire un peu qui on est. Nous, on n'est pas donc, c'est pas en tant que personne, mais en tant que la croix, c'est vraiment une façon de dire qui on est et ce qu'on peut découvrir chez nous, que ce soit sur le site, sur le journal, en vidéo. C'est vraiment une identité qu'on crée qu'on développe grâce à ce nouveau format.
David Carzon, vous, c'est aussi une question qui se pose parce que vous êtes, il y a une structure quand même qui se développe autour de Binge.
Oui, aujourd'hui, on vit en grande partie de production pour des tiers, qu'on fait en coproduction, en marque blanche. Se développe aussi le sponsoring.
C'est-à-dire pour des entreprises qui
se lancent dans des
podcasts, pour des radios,
pour plein de médias, institutions, entreprises, marques qui veulent aujourd'hui créer leur podcast. C'est un outil intéressant puisque il est dans une économie de l'attention. Et aujourd'hui, l'attention, c'est à une certaine valeur. Et on se rend compte qu'il vaut mieux parler peut-être à moins de monde, mais être sûr de leur parler plutôt que de mettre de la pub partout. Et on est sûr qu'elle n'est pas vue, donc c'est quelque chose d'intéressant à travailler. Le modèle économique est en train de se mettre en place. C'est vrai que si on le gère comme là on a géré la pub sur les sites internet, ça va être compliqué, mais je pense qu'il y a des outils intéressants et cette économie de l'attention aujourd'hui répond à ce que permet le podcast.
Bon, on va écouter encore un petit extrait de podcast, il faut en profiter, c'est l'émission du podcast.
Je m'appelle Kelly Pascon, j'ai 31 ans. Je viens de terminer une thèse de doctorat sur l'étude de la planète Mars. Et là, je cherche du travail et j'aimerais mêler mes trois passions.
C'est quoi tes trois passions ?
Alors, mes trois passions, il y a la géologie, l'étude des planètes, et aussi tout ce qui touche au théâtre ou à la vulgarisation, médiation scientifique. Tout ce qui tourne autour des ateliers scientifiques avec les enfants.
Kelly, 32 ans, master planétologie. On se retrouve dans les studios de Binge Audio.
Quand tu étais enfant, toi, tu t'intéressais à quoi ?
J'avais déjà en fait cette passion pour les pierres. Je me rappelle, j'ai même une vidéo quand j'avais 8-10 ans où je m'amusais à trouver dans le jardin et partout les plus belles pierres qu'il y avait. Même, je me disais que c'était des diamants, en fait, c'était de la calcite, mais c'est pas. Pas des diamants, mais j'étais super contente et en fait, j'essayais d'en trouver le plus possible. Et je crois que c'était en cinquième. Ça a été le premier cours en fait de géologie. On a fait de la tectonique des plaques et j'ai flashé. Je sais pas, j'ai trouvé ça super. Je trouvais ça excellent. Je sais pas, de voir qu'il y avait la surface de la Terre qui bougeait. J'ai adoré. Et je sais qu'on nous posait beaucoup la question, même c'était je pense tous les mois, on nous demandait bon vous voulez faire quoi quand vous serez grand, toujours, et moi je disais je sais pas. Et du jour au lendemain j'ai fait moi je veux faire de la géologie. J'avais ces idées-là et j'étais sûre de moi, même si je me souviens mes professeurs me disaient ouais c'est ça, ouais, t'as eu l'idée juste comme ça, ça passera, et en fait non ça a pas passé. Tout ce qui touche à la géologie, j'adore ça quoi.
Et voilà, rêve de petite fille, David Carzon, c'est un des épisodes hein, que vous avez enregistré, préparé, organisé. Comment vous sélectionnez ? Vous l'avez dit, hein, vous avez des axes un petit peu de d'intérêt ou d'attention. Comment vous dites, ah là, ça y est, il est bon, le podcast, on peut le sortir, il est bien monté, on a vraiment de l'info.
Alors là, l'extrait que vous avez passé, c'est un programme qu'on a produit pour l'Université Paris-Saclay. C'est un programme commercial qu'on a fait avec eux. En fait, ils sont venus nous voir parce que ils se sont dit, vous savez raconter des histoires. Nous, on a des chercheurs, on a des étudiants qui ont des vies absolument incroyables et on est incapable de le raconter. Peut-être que le podcast, c'est la meilleure manière de faire. Donc, on a travaillé avec eux, on a identifié un certain nombre de chercheurs qui avaient ces parcours-là. On leur a fait raconter leurs histoires et on en a fait un podcast. Donc, là où ça se joue, c'est sur le choix des personnages, prendre le temps de leur faire raconter, d'aller sur leur terrain. Là, il y a un travail de fabrication, de réalisation derrière qui est important pour se mettre au service de l'histoire. Mais ça, c'est un programme qu'on a fait pour Paris-Saclay. Après, nous, on est sur des territoires qu'on détermine pour les programmes qu'on produit nous-mêmes, sur des registres qui nous intéressent un peu. Ça nous intéresse de déconstruire le système actuel et de le reconstruire.
On a l'impression que c'est toujours un regard un peu décalé, un peu d'humour souvent aussi.
Tout à fait, ouais.
Des choses
aussi
surprenantes.
Extrêmement sérieuses. C'est-à-dire que quand on s'attaque à la question des minorités ou des diversités, il y a énormément de problèmes sur ce terrain-là. On essaie de le faire sous le thème de la conversation, du partage d'expériences et du regard d'experts. Et en mêlant tout ça, on essaie de se dire qu'il y a une nouvelle manière de raconter ces problématiques-là et de les déconstruire et de les reconstruire. Donc quand on cherche aujourd'hui quelque chose, on se dit, est-ce qu'on s'attaque à un problème réel de notre société? Est-ce qu'on a quelque chose à apporter? Est-ce qu'on a une voie à aller chercher qui nous permettrait de les regarder autrement?
Fanny Cohen-Moreau, alors on appelle ça des podcasts natifs, on aurait pu commencer par là. Hein. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est podcast natif, et puis on l'a dit aussi un petit peu. Mmh. Allez, comment on trouve les auditeurs qui, après avoir écouté RCF toute la journée, ont droit d'aller écouter un autre podcast?
Alors, sur la différence entre podcast natif et podcast, on va dire, de replay. Podcast de replay, c'est par exemple, donc, la Grand Angle. Les auditeurs pourront réécouter l'émission après. Alors qu'un podcast natif, ce dont on parle depuis tout à l'heure, ça va être seulement directement disponible sur Internet, puis sur les applications. C'est vraiment là, vraiment la différence. Ce dont on parle c'est jamais passé à la radio, sauf maintenant. Après, comment trouver les auditeurs, c'est ça?
Oui, comment trouver justement, comment se dire, tiens, vous avez parlé de Michel Sardou, mais je voudrais trouver un podcast sur le jardin.
Eh bien déjà, vraiment, tout simplement, dans Google, dans n'importe quel moteur de recherche, tapez « podcast jardinage ». Et vraiment, moi, souvent, je me dis, bah, tiens, j'aimerais bien écouter un podcast, justement, là, sur la science et tout ça. Je me dis, je connais pas assez de podcasts scientifiques, j'aimerais bien en découvrir plus. Donc, j'ai tout simplement tapé « podcast science ». Donc, il y a un petit peu tout qui sort. Mais c'est vraiment, on en parlait, mais c'est vraiment difficile aujourd'hui pour certains auditeurs de trouver de nouvelles choses. Donc il y a des sites, par exemple, en fait il y a des classements comme le site Podcastéo où on a là, il y a plus de 500 podcasts qui sont référencés avec un moteur de recherche. Il y a des blogs, il y a toutes sortes de choses et heureusement, de plus en plus, la presse en ligne fait souvent des articles en parlant, voilà, top 5 de podcasts sur tel ou tel sujet. Donc la presse, en fait, qui est donc les grands médias, se font un bon relais, finalement, aujourd'hui, des podcasts.
De ce nouveau média.
Oui.
De ce nouveau média. Laurence Chabazon, alors, on l'a dit, hein, vous avez une fréquence, toutes les semaines, vous en sortez une. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes lié par l'information, malgré tout. Vous essayez de rebondir sur un sujet d'information.
Sur cette série, non. On a pris cette décision de détourer les sujets qu'on voulait aborder, qui soient vraiment à l'image de ce qu'on raconte dans la Croix, de ce qu'on aide et des sujets qui nous tiennent à cœur. Mais on est capable de faire un récit sur un reportage qui a eu lieu il y a un an, il y a deux ans, parce qu'il a laissé des traces.
C'est arrivé, effectivement.
Voilà, c'est notamment le cas du premier, Voyage sur un porte-container, parce qu'en fait, sur ce premier, par exemple, Voyage à bord d'un porte-container, c'est un journaliste écho qui est parti sur un porte-container, voilà, économie, pardon. Et il a voulu voir, le point de départ, c'était je veux voir la mondialisation en vrai, en marche, donc je vais aller sur un bateau qui transporte un milliard de marchandises. Et il a fait ce reportage il y a vraiment quelques temps, il y a plusieurs années, mais aujourd'hui ça résonne toujours. Hein. Qu'est-ce que c'est la mondialisation? Qu'est-ce que ça veut dire un bateau qui part de Chine pour aller dans les grands ports européens? Ça a du sens. Donc on part d'abord d'histoires fortes et de sujets qui résonnent et qui incarnent ce qu'on a envie de dire, mais on n'est pas collé à l'actu, ce qu'on fait par ailleurs dans nos pages et sur notre site.
Et sur les réseaux sociaux aussi. Clément Saccard, on arrive au terme de l'émission. Peut-être, quel est le prochain événement qui sera raconté par le témoin que vous avez rencontré?
une exclusivité ici sur RCF. Alors, le prochain épisode sera probablement en lien avec une histoire de secte, la secte du Temple solaire qui avait fait beaucoup
les
de bruit,
titres.
Un grand fait divers qui sera raconté cette fois-ci, et ça rejoint un petit peu le podcast de La Croix, par un journaliste de terrain, un peu le journaliste à l'ancienne qui allait enquêter et qui avait parfois des infos avant la police. Donc voilà.
Voilà, voilà. Et ça, c'est sur Magma.
Hein. Magma.
Et pourquoi vous avez choisi ce nom? Vous n'allez pas le dire maintenant parce qu'on n'a plus le temps, mais il faut aller voir sur le site
internet
pour ça.
Tout
voilà.
À fait.
Voilà, Fanny Cohen-Moreau, alors vous aussi, au prochain épisode, c'est sur quoi? Les princesses encore?
Alors non, alors effectivement je m'en rappelle plus, mais pour vous dire, le celui qui est sorti le mois dernier, c'était sur les évêques au Haut Moyen-Âge, comment on était nommé les évêques au Moyen-Âge.
Voilà, bah merci à tous les quatre pour ce podcast.
Merci.
Et puis, bien sûr, il y a aussi les podcasts d'RCF, hein, www.rcf.fr, vous pouvez les réécouter. Il est temps, je crois, de rendre l'antenne. Non, toujours pas, mais si. Merci à Pierre Samanos, alors, qui était à la régie, et on cafouille un petit peu sur le temps. Bah, forcément, on a envie encore d'écouter les podcasts où là, le temps ne nous est pas compté. Oui, je disais simplement, les podcasts sur RCF, il suffit d'aller sur le site et vous pouvez les écouter, ou sur l'application. Alors, bien sûr, vous mettez simplement votre adresse mail qui vous permet d'accéder à toutes les émissions qui ont pu être enregistrées, que vous pouvez réécouter en balado-diffusion, en podcast, sur votre baladeur ou sur votre ordinateur. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.